Chapitre 7. Retour à la maison. Wolf Jaw Ranch. Dieu guérit comme la foudre. Sourd à Détroit. Prismatique. Mon père est mort en 2003, après avoir survécu à son épouse et à deux de ses cinq enfants. Claire Morton Overton n'avait pas encore 30 ans lorsque son époux, dont elle était séparée, l'avait assassinée. Quant à ma mère et à mon frère aîné, tous deux étaient décédés à 51 ans. Question. Ô mort, où est ton aiguillon? Réponse. Partout. Putain de Dieu. Je suis rentré à Harlow pour l'enterrement de papa. La plupart des routes étaient goudronnées à présent, pas seulement la nôtre et la route 9. Il y avait désormais un lotissement à la place de notre étang de baignade et une épicerie Big Apple, à un petit kilomètre de l'église du Shiloh. Mais pour l'essentiel, la ville était la même. Notre église se dressait toujours au bout de la route, passait la maison de Mir Harrington, même si Mimi elle-même était partie pour la grande ligne partagée du ciel, et le pneu balançoire était toujours suspendu à l'arbre dans notre jardin de derrière. Je me suis dit qu'il avait dû servir aux enfants de Terry, même s'ils devaient tous être trop âgés pour se balancer maintenant. La corde était effilochée et noircie par les ans. « Je vais peut-être la changer, » ai-je pensé. « Oui, mais pourquoi? Pour qui? » Certainement pas pour mes enfants, puisque je n'en avais pas. Et cette maison n'était plus la mienne. La seule voiture dans l'allée était une vieille Ford de 51. Elle ressemblait à la fusée du macadam d'origine, mais naturellement, c'était impossible. Dwayne Robichaud avait bousillé la fusée du macadam 1 sur le circuit de Castle Rock, au premier tour de sa seule et unique course. Pourtant, il y avait l'autocollant « Batteries Delco » à l'arrière et le chiffre 19 peint sur le côté, en rouge sang. Un corbeau est venu se poser sur le capot. Je me suis souvenu que mon père nous avait appris, à nous ses enfants, à faire le signe de conjuration du mauvais œil quand on voyait des corbeaux. « On sait jamais, ça peut pas faire de mal, » disait-il. Et j'ai pensé, « J'aime pas ça. Il y a quelque chose de pas normal ici. » Je pouvais comprendre que Connie ne soit pas encore arrivé. Hawaï est nettement plus loin que le Colorado. Mais où se trouvait Terry? Lui et sa femme Annabelle habitaient encore ici. Et les Bowie alors? Les Clucky, les Paquette, les DeWitt et toute l'équipe de la Morton Fuel Oil. Papa avait atteint un bel âge, mais il ne pouvait quand même pas avoir survécu à tous les vieux du pays. Je me suis garé, je suis descendu de ma voiture et j'ai vu que ce n'était plus la Ford Focus de chez Hertz avec laquelle j'étais arrivé de Portland. C'était la Galaxy 66 que mon père et mon frère m'avaient offerte pour mon 17e anniversaire. Sur le siège du passager étaient posés les livres reliés que ma mère m'avait offerts. « Où souffle la tempête ?»« Arundel » et les autres romans de Kenneth Roberts sur la Révolution américaine. « C'est un rêve, me dis-je, un rêve que j'ai déjà fait. » Cette prise de conscience ne m'apporta aucun soulagement, seulement une appréhension accrue. Un corbeau se posa sur le toit de la maison dans laquelle j'avais grandi. Un autre se posa sur la branche à laquelle était suspendu le pneu balançoire, celle dont toute l'écorce avait été usée par le frottement et qui pointait tel un os dénudé. Je ne voulais pas entrer dans la maison, parce que je savais ce qui m'attendait. Mes pieds m'ont porté en avant cependant. J'ai monté les marches, et même si Terry m'avait envoyé une photo du Porsche restauré 8 ans auparavant, ou peut-être 10, la même vieille planche, la deuxième en partant du haut, a lâché le même vieux grincement grincheux quand j'ai marché dessus. Il m'attendait dans la salle à manger. Pas toute la famille, non. Rien que les morts. Ma mère n'était plus qu'une momie, comme elle l'était tandis qu'elle agonisait au cours de ce mois froid de février. Mon père était pâle et rabougri, un peu comme sur la photo de Noël que Terry m'avait envoyée pas très longtemps avant sa crise cardiaque fatale. Andy était corpulent. Mon frère Gringalet avait beaucoup grossi à l'âge mûr. Mais son teint rougeau d'hypertendu s'était estompé, remplacé par la pâleur cireuse de la tombe. Mais c'était clair le pire. Son mari, pris de folie, ne s'était pas contenté de lui ôter la vie. Elle avait eu la témérité de le quitter, et seul un anéantissement complet pouvait le venger. il lui avait tiré 3 coups de revolver en plein visage. Les 2 derniers, alors qu'elle gisait morte sur le sol de sa salle de classe, avant de retourner l'arme contre lui et de se faire exploser la cervelle. « Andy, ai-je demandé, qu'est-ce qui t'est arrivé ?»«
Prostate, m'a-t-il répondu.
J'aurais dû t'écouter, petit frère. » Trônant sur la table, il y avait un vieux gâteau d'anniversaire moisi. Alors que je le contemplais, le glaçage s'est soulevé, a craqué, et une fourmi noire de la taille d'un moulin à poivre a rampé au dehors. Elle a lourdement remonté le bras de mon frère défunt jusqu'à son épaule, puis a grimpé sur son visage. Ma mère a tourné la tête. J'ai entendu craquer ses tendons desséchés dans un bruit de ressorts rouillés de vieilles portes de cuisine.
« Bon anniversaire, Jamie, » m'a-t-elle dit.
Sa voix était râpeuse, monocorde.
« Bon anniversaire, fils, mon père. »«
Bon anniversaire, gamin, » Andy.
Puis Claire s'est retournée pour me regarder d'une seule orbite à vif. « Ne me dis rien, » ai-je pensé. « Si tu parles, je vais devenir fou. » Mais elle a parlé. Ses paroles émergeant d'un trou de sang coagulé, empli de dents brisées.
« Va pas la mettre enceinte sur la banquette arrière de cette voiture !»
Et ma mère de hocher la tête, tel un pantin de ventriloque, pendant que d'autres fourmis géantes rampaient hors de l'antique gâteau. J'ai tenté de me couvrir les yeux, mais mes mains étaient trop lourdes. Elles pendaient, inutiles, le long de mes flancs. Derrière moi, j'ai entendu la marche du Porsche lâcher sa protestation grincheuse. Non pas une fois, mais deux. Deux nouveaux arrivants. Et je savais qui c'était. « Non, j'ai dit, ça suffit, je vous en supplie, ça suffit !» Mais c'est là que la main de Patsy Jacobs s'est posée sur mon épaule, et les petites mains de Maury Tu nous suis se sont enroulées autour de ma jambe, juste au-dessus du genou. « Il s'est passé quelque chose !» chuchota Patsy à mon oreille. Des cheveux m'ont chatouillé la joue, et je savais que c'étaient les siens, qui pendaient de son cuir chevelu arraché dans l'accident.
« Il s'est passé quelque chose !» confirma Maury en étreignant plus fort ma jambe.
Puis ils se sont tous mis à chanter sur l'air de « Joyeux anniversaire ». Mais les paroles avaient changé.
« Il s'est passé quelque chose, il s'est passé quelque chose, il s'est passé quelque chose, Jamie, il s'est passé quelque chose. »
C'est là que je me suis mis à hurler. J'ai fait ce rêve pour la première fois dans le train qui m'emmenait à Denver, même si mes hurlements, heureusement pour les gens assis dans le même compartiment que moi, se sont matérialisés dans le monde réel sous la forme d'une série de grognements gutturaux. Au cours des 20 années suivantes, j'ai dû le refaire 20aine de fois. Je me réveillais toujours avec la même panique. Il s'est passé quelque chose. À cette époque-là, Andy était encore en vie et bien portant. Je me suis mis à lui téléphoner pour lui dire de faire surveiller sa prostate. D'abord, il s'est contenté de me rire au nez, puis, agacé, il m'a fait remarquer que notre père avait encore une santé de fer et qu'il paraissait bien parti pour durer au moins 20 ans de plus. « Peut-être bien, je lui ai dit, mais maman est morte d'un cancer et elle est morte jeune, sa mère aussi. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, ni l'une ni l'autre n'avait de prostate. » Ça, je pense que les dieux de l'hérédité s'en foutent, je lui ai répondu. Ils envoient juste le crabe là où il est le bienvenu. Pour l'amour du ciel, Andy, c'est rien qu'un examen. Un doigt dans le cul et c'est terminé en 10 secondes. Et du moment que tu sens pas les 2 mains du toubib sur tes épaules, t'as même pas à t'inquiéter pour la virginité de ta porte de service.
Je le ferai quand j'aurai 50 ans, me répliqua-t-il.
C'est ce qu'on recommande. C'est ce que je vais faire. Et je veux plus en entendre parler. Je suis content que tu sois revenu dans le droit chemin, Jamie. Je suis content que t'aies réussi à garder ce qui passe pour un boulot d'adulte dans le business de la musique. Mais rien de tout ça ne te donne le droit de superviser ma vie. Dieu fait très bien ça pour moi. Merci. J'ai pensé, 50 ans, c'est trop tard. Quand t'auras 50 ans, ton cancer sera déjà à un stade avancé. Vu que j'aimais mon frère, même s'il était devenu, à mon humble avis, un cul béni modérément emmerdant, j'ai joué mon va-tout et je suis allé trouver Francine, sa femme. À elle, j'ai pu avouer ce qui aurait fait ricaner Andy, que j'avais eu une prémonition
et une forte. Je t'en prie, Francine, je t'en prie, fais-lui contrôler sa prostate. » Andy a accepté un compromis. Pour que vous la fermiez, tous les deux, en allant se faire faire un dosage de PSA juste après son 47e anniversaire, non sans rouspéter que ce foutu examen n'était pas fiable. Peut-être, mais le résultat fut difficilement contestable, même par mon frère allergique au toubib et fanat de citations bibliques. Un beau 10 tout rond. S'ensuivit une visite chez un urologue de Lewiston, puis une opération. 3 ans après, il était déclaré guéri de son cancer. 1 an plus tard, il avait 51 ans, il a fait un infarctus en arrosant sa pelouse et l'ambulance n'a pas eu le temps de l'emmener à l'hôpital, qu'il était déjà dans les bras de Jésus. Ça s'est passé dans le nord de l'État de New York, où ont eu lieu ses obsèques. Il n'y a pas eu de cérémonie à Harlow. J'en ai été soulagé. Je rentrais déjà trop souvent à la maison dans mes rêves. Résultat différé du traitement de mon addiction à la drogue par Jacobs. Pour moi, ça ne faisait aucun doute. J'ai de nouveau émergé de ce même rêve un lundi matin ensoleillé de juin 2008 et je suis resté allongé 10 minutes dans mon lit, le temps de récupérer. Ma respiration a fini par se calmer et j'ai réussi à faire taire l'idée que si j'ouvrais la bouche, rien d'autre n'en sortirait que « il s'est passé quelque chose » répété en boucle. Je me suis souvenu que je ne buvais plus et que je ne me droguais plus. Et c'était encore ça le plus grand miracle de ma vie, celui qui l'avait transformé pour le mieux. Ce rêve était un peu moins récurrent à présent, et ça faisait au moins 4 ans que je ne m'étais pas réveillé en train d'essayer de me transpercer la peau, la dernière fois avec une spatule en bois, ce qui ne m'avait absolument rien fait. Ce n'est pas pire qu'une petite cicatrice chirurgicale, me suis-je dit, et en général, je pouvais effectivement y penser en ces termes. Ce n'est que dans l'immédiat après-coup que j'ai senti quelque chose rôder derrière le rêve, quelque chose de malveillant, ou malveillante. Déjà à l'époque, j'en avais la certitude. Le temps que je sois douché et habillé, le rêve n'était plus qu'une fine brume. Il ne tarderait pas à se dissiper entièrement, je le savais d'expérience. J'avais un appartement au premier étage d'une résidence dans Boulder Canyon Drive, à Netherland. En 2008, j'aurais eu les moyens de m'offrir une maison individuelle, mais ça aurait impliqué une hypothèque, et je n'en voulais pas. J'étais célibataire, et l'appartement me suffisait amplement. J'avais un lit à 2 places, comme dans le baroudeur de Jacobs, et il n'avait pas manqué de princesse pour le partager avec moi au fil des ans. Elle se faisait plus rare et plus espacée ces derniers temps. Mais c'était dans l'ordre des choses, non? J'allais sur mes 52 ans, l'âge, à quelques années près, où les fringants jeunes premiers commencent leur inévitable métamorphose en vieux bouc débraillé. Autre chose, je n'étais pas mécontent de voir mon compte épargne s'étoffer lentement. Sans être pingre, loin de là, je ne crachais pas non plus sur l'argent. Le souvenir de mon réveil au Fairgrounds Inn, malade comme un chien et fauché comme les blés, ne m'avait jamais quitté. Pas plus que la mine de la betterave à l'accueil quand elle m'avait rendu ma carte de crédit refusée. « Réessayez, » je lui avais demandé. « Mon chou, » qu'elle m'avait répondu, « j'ai qu'à te regarder pour savoir que c'est pas la peine. »« Ouais, ben, t'as qu'à me regarder maintenant, poulette, » je pensais, tout en conduisant mon Forerunner vers l'ouest sur Caribou Road. J'avais pris 20 kilos depuis le soir de ma rencontre avec Charles Jacobs à Tulsa. Mais mes 95 kilos allaient plutôt bien avec mon 1m85. Bon, d'accord, mon ventre était loin d'être plat, et mon dernier dosage de cholestérol n'était pas brillant. Mais 10 ans plus tôt, j'avais l'air d'un survivant de Dachau. Ok, je ne me produirais jamais à Carnegie Hall, ni dans les stades avec le E Street Band, mais je jouais encore, et souvent. Je faisais un travail que j'aimais, et je le faisais bien. Celui ou celle qui désire plus, je me disais souvent, provoque inutilement les dieux. Alors, va pas les provoquer, Jamie. Et si d'aventure tu tombes sur Peggy Lee chantant le vieux tube mélancolique de Lieber & Stoller, Is that all there is? Change de station et cale-toi sur du bon gros vieux bastringue d'antan. Au bout de 6 kilomètres sur Caribou Road, juste au moment où ça commence à grimper plus raide dans les montagnes, j'ai tourné au niveau du panneau Wolf Jaw Ranch, Croc du Loup. 3 kilomètres. Au portail, j'ai tapé mon code sur le clavier et je suis allé me garer sur le parking gravillonné marqué « Employé et talent ». La seule fois où j'avais vu ce parking bondé, c'était quand Rihanna était venue enregistrer un EP à Wolfjaw. Et ce jour-là, il y avait encore plus de voitures garées sur la route d'accès, quasiment jusqu'au ras du portail. La môme était flanquée d'un sacré aéropage. Pagan Starshine, de son vrai nom Hillary Katz, devait déjà avoir nourri les chevaux depuis 2 heures, mais j'ai quand même remonté la double rangée de stalles pour leur distribuer des tranches de pommes et des morceaux de carottes. C'étaient de grandes et belles bêtes pour la plupart. Je les voyais parfois comme des limousines, cadillacs, chaussés de sabots. Mon préféré, toutefois, ressemblait plutôt à une vieille Chevrolet déglinguée. C'était Bartleby, un pommelé gris sans pédigré, à proprement parler, qui était déjà pensionnaire de Wolfjaw lorsque j'étais arrivé avec rien d'autre qu'une guitare, un sac et une méchante crise d'angoisse. Et il n'était déjà plus tout jeune à l'époque. La plupart de ses dents avaient pris le même chemin que les fameuses chaussures en daim bleu d'Elvis. Mais il a mâchonné sa tranche de pomme avec le peu qui lui restait, ruminant nonchalamment. Ses bons yeux bruns n'ont pas quitté un seul instant mon visage. « T'es un bon gars, Bart », je lui ai dit en caressant son museau. « Et moi, j'adore les bons gars comme toi. » Il a encensé, comme pour dire qu'il savait. Pagan Starshine, Peg pour les intimes, était en train de nourrir les poules avec du grain contenu dans son tablier. N'ayant pas de main libre pour me saluer, elle m'a lancé un grand salut éraillé, suivi des 2 premiers vers de Mashed Potato Time. J'ai entonné les 2 suivants avec elle. « It's the latest, it's the greatest. » Pagan avait été choriste en son temps, et quand elle était jeune, elle avait la voix d'une des Pointer Sisters. Elle fumait aussi comme un pompier, et à l'âge de 40 ans, elle avait plutôt la voix de Joe Cocker à Woodstock. Le studio 1 était fermé et plongé dans l'obscurité. J'ai allumé et consulté le tableau des sessions prévues pour la journée. Il y en avait 4, 10h, 14h, 18h et 21h, laquelle se prolongerait sans doute jusqu'à minuit. Le studio 2 serait tout aussi occupé. Netherland est un petit bourg, moins de 1500 habitants à l'année, niché sur le versant ouest des Rocheuses, à une altitude où se raréfie l'oxygène, mais il jouit d'une vitalité musicale disproportionnée par rapport à sa taille. Les autocollants sur les voitures qui proclament Netherland ou Nashville à leur vertige n'exagèrent pas complètement. Joe Walsh a enregistré son premier album à Wolfjaw 1, à l'époque où le père de Hugh Yates était le patron du ranch, et John Denver a enregistré son dernier à Wolfjaw 2. Un jour, Hugh m'a fait écouter des chutes d'enregistrement de Denver où on l'entendait parler à ses musiciens d'un avion expérimental qu'il venait d'acheter, un truc appelé un long EZ. Ça m'a fait froid dans le dos d'entendre ça. Il y avait 9 bars en ville, où l'on pouvait entendre de vrais musiciens tous les soirs de la semaine et 3 studios d'enregistrement en plus d'une autre. Wolfjaw Ranch était néanmoins le plus grand et le meilleur. Le jour où j'avais timidement fait mon entrée dans le bureau de Hugh pour lui expliquer que c'était Charles Jacobs qui m'envoyait, il y avait bien 50 de photos sur ses murs, dont celles de Van Halen, Lynyrd Skynyrd, Axl Rose, dans la fleur de l'âge, et U2. Mais celle dont il était le plus fier, et la seule sur laquelle il figurait lui-même, était celle des Staple Singers. Mavis Staples est une déesse, m'avait-il dit. La meilleure chanteuse d'Amérique. Personne ne lui arrive à la cheville. Durant mes années de galère sur la route, j'avais enregistré sur pas mal de singles médiocres et de mauvais albums indépendants, mais je ne m'étais jamais entendu jouer sur un gros label jusqu'à ce que je remplace un guitariste rythmique grippé pour une session avec Neil Diamond. J'étais terrifié ce jour-là, convaincu que j'allais me plier en deux et vomir sur ma SG. Mais depuis, j'avais joué pour des quantités de sessions, le plus souvent comme remplaçant, mais parfois aussi à la demande. Ça ne rapportait pas des masses, mais c'était loin d'être le bagne. Les week-ends, je jouais avec le groupe du studio dans un bar local appelé le Comstock Lode, et j'arrivais même à décrocher quelques concerts en sus, à Denver. Je donnais aussi des leçons de musique à des lycéens, dans le cadre d'un programme d'été inauguré par Hugh après la mort de son père. Ça s'appelait le Rock Atomic. « Mais je peux pas faire ça », avais-je protesté lorsque Hugh m'avait suggéré d'ajouter ses cours à mes fonctions. « Je sais pas lire la musique. » « Ce que tu veux dire, c'est que tu sais pas lire les notes, avait-il répliqué.
Mais tu sais très bien lire les tablatures, et c'est tout ce que demandent ces mômes. Heureusement pour eux et pour nous, c'est tout ce dont la plupart d'entre eux ont besoin. C'est pas ici, dans les montagnes, que tu vas dénicher un Ségovia, mon vieux.
Il avait raison, et une fois mon trac dissipé, je me suis vraiment pris au jeu. Pour commencer, ces leçons de musique faisaient remonter des souvenirs des Chrome Roses. Ensuite, je devrais peut-être avoir honte de le dire, le plaisir que j'éprouvais à travailler avec les jeunes du Rock Atomic était analogue au plaisir que j'avais à donner sa tranche de pomme à Bartleby le matin et à lui caresser le museau.
Ces gosses voulaient juste jouer du rock, et la plupart d'entre eux découvraient qu'ils pouvaient, une fois maîtrisé l'accord de mi, cela dit.
Le Studio 2 aussi était plongé dans l'obscurité, mais Mocky McDonald avait laissé la console allumée. J'ai tout éteint et noté mentalement de lui en toucher deux mots un peu plus tard. C'était un bon technicien, mais après 40 ans de fumette, sa mémoire laissait à désirer. Ma Gibson SG se tenait prête, debout avec les autres instruments, car un peu plus tard dans la journée, je devais jouer sur une démo avec une formation de rockabilly locale appelée Godawana. Je me suis assis sur un tabouret et j'ai joué en mode raquette de tennis pendant une dizaine de minutes, enchaînant des trucs comme « High heel sneakers »,« Got my mojo working », juste pour m'échauffer. J'étais meilleur à présent que durant mes années sur la route, bien meilleur, mais je ne deviendrai quand même jamais Clapton. Le téléphone a sonné, même si dans les studios, il ne sonnait jamais vraiment. Il s'allumait, diffusait une lueur bleue. J'ai reposé ma guitare pour répondre.
« Studio 2, Curtis Mayfield à l'appareil. « Comment va la vie après la mort, Curtis ?» m'a demandé Hugh Yates. « Plutôt sombre. Le bon côté des choses, c'est que je suis plus paralysé. « Heureux de l'apprendre. Monte un peu à la grande maison. J'ai quelque chose à te montrer. Hey, « Hé, mec, on a quelqu'un qui enregistre dans une demi-heure. Je crois que c'est cette minette country aux jambes interminables. »
Mocky s'occupera de l'installer.
« Non, il le fera pas. Il n'est pas encore là. À propos, il a laissé la console allumée aux deux. Encore. »
Hugh soupira.
« Je lui en parlerai. Ramène-toi. »
« Ok. Mais Hugh, c'est moi qui parlerai au Mockster. C'est mon boulot, pas vrai ?»
Mon boss a ri. Je me demande parfois où est passé le pauvre bougre que j'ai embauché naguère, qui l'aurait pas ouverte même s'il avait eu pleine de merde, dit-il. « Allez, rapplique, ça va t'emboucher un coin. »
La grande maison était un vaste ranch de plein pied, avec, garé dans la cour, la Continental de collection de Hugh. Ce mec était toqué de tout ce qui ronflait sous les pieds, et il avait les moyens de se faire plaisir. Wolfjaw s'en sortait tout juste, mais Hugh avait un paquet de pognon hérité des générations de Yates précédentes, placé dans des investissements boursiers de haute volée, et divorcé deux fois, avec contrat de mariage et sans enfant dans les deux cas, il était le dernier de la lignée. Il avait des chevaux, des poules, des moutons et quelques cochons, mais ça, c'était à peine plus qu'un hobby. Même chose pour ses voitures et sa collection de pick-up de compétition. Sa passion, c'était la musique. Et c'était une passion dévorante. Il prétendait avoir été lui-même musicien par le passé, mais jamais je ne l'avais vu empoigner un cor ni une guitare. « La musique reste », m'avait-il confié un jour. « La littérature populaire passe, les émissions de télé passent, et je te défie de me dire ce que tu as vu au cinéma ces deux dernières années. » Mais la musique reste, même la pop-musique, surtout la pop-musique. Tu peux railler tant que tu veux. Raindrops keep falling on my head. Les gens écouteront encore ce morceau débile dans 50 ans. Je n'avais aucun mal à me souvenir du jour où j'avais rencontré Hugh, parce que Wolfjaw n'avait pas changé, jusqu'à la Lincoln Continental bleu nuit avec vitres d'opéra garées devant l'entrée. Moi seul avais changé. Hugh m'avait accueilli à la porte en ce jour d'automne 1992, m'avait serré la main et fait entrer dans son bureau. Puis il s'était affalé dans un fauteuil à dossier haut, derrière un bureau assez grand pour y faire atterrir un Piper Cub. J'étais nerveux en le suivant à l'intérieur, et quand j'ai vu tous ces visages célèbres me regarder depuis les murs, le peu de salive qui me restait dans la bouche s'est complètement asséché. Il m'a détaillé de la tête aux pieds, un visiteur en t-shirt d'ACDC crasseux et jean encore plus crasseux, et m'a dit « Charlie Jacobs m'a appelé.
J'ai une dette envers le rêve depuis pas mal d'années maintenant. Elle est plus importante que ce que je pourrais jamais rembourser, mais il me dit qu'avec toi, on sera quitte. J'étais là, planté devant son bureau, muet comme une carpe. Je savais comment me sortir d'une audition pour un groupe, mais ça, ça n'avait rien à voir. Il m'a dit que tu t'es drogué. Oui, j'ai dit. À quoi bon le nier? Il a carrément parlé de Blanche avec un grand B? Oui. Mais maintenant, t'es clean? Oui. Je pensais qu'il allait me demander depuis combien de temps, mais il ne l'a pas fait. Assieds-toi, bon Dieu. Tu veux un coca? Une bière? Une limonade? Un thé glacé, peut-être? Je me suis assis, mais quelque chose m'empêchait de m'adosser et de me détendre. Un thé glacé, oui. Il a appuyé sur le bouton de l'intercom sur son bureau. « Georgia, deux thés glacés, ma chérie. » Puis à moi. « C'est un vrai ranch ici, Jamie. Mais moi, le bétail dont je m'occupe, c'est les animaux qui débarquent avec des instruments. » J'ai tenté un sourire, mais je me suis senti stupide, alors j'ai renoncé. Il n'a pas paru le remarquer. Groupe de rock, groupe de country, artistes solo, ils sont notre pain quotidien. Mais on enregistre aussi des jingles publicitaires pour les stations de radio de Denver et 20 ou 30 livres audio par an. Michael Douglas est venu enregistrer un roman de Faulkner à Wolfjaw et Georgia a failli se pisser dessus. Il a cette personnalité publique décontractée, mais waouh, quel perfectionniste en studio. Comme je ne voyais pas quelle répartie trouver à ça, je n'ai rien dit et j'ai prié pour que le thé glacé arrive. J'avais la bouche plus sèche que le désert de Mojave. Hugh s'est penché en avant. Sais-tu ce dont un vrai ranch a besoin avant toute autre chose? J'ai secoué la tête, mais avant qu'il ait pu développer, une jolie jeune femme noire est entrée avec deux grands verres de thé glacé, bourrés de glaçons, posés sur un plateau d'argent. Il y avait un brin de menthe dans chacun. J'ai pressé deux tranches de citron dans le mien, mais je n'ai pas touché au sucrier. Pendant mes années d'addiction à l'héroïne, j'étais avec le sucre comme un ours avec le miel. Mais depuis ce fameux jour du casque audio dans la carrosserie auto, le sucré m'écœurait. J'avais acheté une tablette de chocolat dans la voiture bar peu après mon départ de Tulsa. Mais je n'avais pas pu la manger. Rien que de la renifler m'avait filé la nausée. « Merci, Georgia, » dit Yates. « Avec grand plaisir. N'oublie pas les heures de visite. Elles commencent à 14h et l'Est attend. » « J'y pense. » Georgia sortit en refermant doucement la porte derrière elle et le patron se tourna vers moi. « Ce dont un vrai ranch a besoin, c'est d'un contremaître. Celui qui s'occupe du versant agriculture et élevage ici, à Wolfjaw, c'est Rupert Hall. Il est parfait, rien à dire. Mais mon contremaître musical est hospitalisé en ce moment au Boulder Community Hospital. Les Calloway. J'imagine que ce nom ne te dit rien. » J'ai secoué la tête. « Si je te dis « Excellent Board Brothers », ça me disait quelque chose, en effet. Groupe instrumental, c'est ça? Son surf music, genre Dick Hale et ses Deltones? Oui, exactement. Plutôt bizarre quand on pense qu'ils étaient tous originaires du Colorado, qui se situe à peu près aussi loin des deux océans qu'on peut l'imaginer. Ils ont eu un tube au top 50, « Luna Anakaya ». C'est-à-dire « faisons l'amour » en très mauvais hawaïen. Oui, je m'en souviens. Bien sûr que je m'en souvenais. Ma sœur avait bien passé ce disque un milliard de fois. C'est celui où on entend la fille qui rit sans s'arrêter. Yates s'est fendu d'un grand sourire. C'est ce rire qui les a propulsés dans le cercle envié des tubes à succès. Et c'est moi, le papa cool, qui les a mis en boîte. Juste une intuition de dernière minute, en fait. C'était l'époque où mon père était encore le patron. Et la fille qui se bidonne sur la bande travaille aussi chez nous, Hillary Katz, même si, à l'heure actuelle, elle se fait appeler Pagan Starshine. Elle est sobre maintenant. Mais ce jour-là, elle était tellement défoncée au protoxyde d'azote qu'elle pouvait plus s'arrêter de rigoler. Je l'ai enregistrée juste là, dans la cabine, sans qu'elle s'en doute. Son rire a atterri sur leur disque et lui ont donné sa part des bénéfices, $7,000. J'ai approuvé de la tête. Les annales du rock sont remplies de belles histoires de ce genre. Bref, les Excellent Board Brothers ont fait une tournée, puis ils ont fait les deux F. Tu connais?
Oui, je connaissais, et d'expérience. Ils ont fait faillite et ils se sont fâchés.
Les
est rentré à la maison et il est venu travailler avec moi. Il est meilleur producteur que musicien et il est mon tambour-major pour le versant musique depuis bientôt 15 ans. Mon idée, quand Charlie Jacobs m'a appelé, c'était de faire de toi l'assistant de Les, me disant que tu pourrais apprendre en travaillant, décrocher quelques concerts à côté, tout le bordel habituel. C'est toujours l'idée, mais ta courbe d'apprentissage a intérêt à décoller en flèche, fiston, parce que Les a eu une crise cardiaque la semaine dernière. Il va s'en sortir, à ce qu'on m'a dit, mais il va devoir perdre pas mal de poids et prendre pas mal de cachets, et il parle de partir à la retraite d'ici un an ou deux. Ce qui me laisse largement le temps de voir si tu feras l'affaire ou pas. J'ai éprouvé une sensation proche de la panique. Monsieur Yates, Hugh, je connais quasiment que dalle au son et à l'enregistrement. Les seuls studios d'enregistrement où j'ai mis les pieds sont ceux qu'on louait à l'heure avec le groupe dans lequel je jouais, et dont la facture était sûrement payée sans sourciller par les parents poules du guitariste solo, renchérit-il, ou la petite femme du batteur, serveuse 8 heures par jour dans un restaurant et cavalant après les pourboires avec des ampoules aux pieds. Ouais, c'était à peu près ça. Du moins, jusqu'à ce que l'épouse en question ouvre les yeux et le foute à la porte. Hugh s'est penché en avant, les mains jointes. « Soit tu apprendras, soit tu apprendras pas. Le rêve dit que tu apprendras. C'est suffisant pour moi. Faut bien. J'ai une dette envers lui. Pour le moment, tout ce que tu as à faire, c'est allumer les studios et te tenir au courant des achats. Tu sais ce que c'est ? Heure d'artiste ? C'est ça. Et tout fermer le soir. J'ai un gars qui peut te montrer les ficelles jusqu'au retour de Les. Il s'appelle Mocky McDonald. Si tu prêtes autant attention à ce que Mocky fait de travers qu'à ce qu'il fait bien, tu apprendras beaucoup. Ne le laisse pas tenir le journal de bord, c'est tout ce que je te demande. Encore une chose. Si tu fumes de l'herbe, c'est ton affaire, tant que tu te pointes au boulot à l'heure et que tu déclenches pas un feu de prairie. Mais si j'apprends que t'as repiqué à la poudre... Je me suis forcé à le regarder dans les yeux. Non, ça je recommencerai pas. Affirmation courageuse que j'ai entendue de nombreuses fois, et bien souvent de la bouche de gens qui sont morts à l'heure qu'il est. Mais des fois, ça tient la route. J'espère que ce sera ton cas. Mais qu'on soit bien d'accord, tu consommes, tu dégages, dette ou pas dette. C'est clair ? Ça l'était, comme du cristal. Georgia Donlan avait pris quelques kilos. Il y avait des fils d'argent dans ses cheveux bruns et elle portait des verres progressifs. Mais elle était aussi belle en 2008 qu'elle l'était en 1992. « Tu saurais pas ce qui lui a échauffé les sangs ce matin, si ? » m'a-t-elle demandé. « Aucune idée. » Il s'est mis à jurer, puis je l'ai entendu rire un peu. Puis il s'est remis à jurer, en disant qu'il le savait, putain, il le savait, cette espèce d'enfoiré. Puis il a balancé un truc, on aurait dit. « Tout ce que je veux savoir, c'est si quelqu'un va se faire virer. Si c'est le cas, je pose un arrêt maladie. Je supporte pas le conflit. » dit la femme qui a balancé une marmite à la figure du livreur de viande l'hiver dernier. Ça, c'était autre chose. Le petit enfoiré avait essayé de me plotter le cul. Le petit enfoiré avait bon goût, j'ai fait observer. Et comme elle me foudroyait du regard, je dis ça comme ça. Ça fait quelques minutes que tout est calme. J'espère qu'il s'est pas flanqué une crise cardiaque. Peut-être que c'est un truc qu'il a vu à la télé, ou lu dans le journal. La télé s'est éteinte un quart d'heure après mon arrivée, et pour ce qui est du caméra et du poste, ça fait 2 mois qu'il s'est désabonné. Il dit qu'il a tout sur Internet. Moi, je lui dis, Hugh, toutes ces nouvelles sur Internet sont rédigées par des garçons qui n'ont pas encore de poils au menton et des filles à peine sorties de leur premier soutif. Tu peux pas leur faire confiance. Il pense que je suis qu'une vieille nana sans jugeote. Il le dit pas, mais je le vois bien dans ses yeux. Comme si j'avais pas une fille qui étudie l'informatique à l'université du Colorado. C'est Bree qui m'a dit de pas me fier à ces conneries de blogs. Vas-y, tu peux y aller maintenant. Mais s'il est assis dans son fauteuil, mort d'une embolie gazeuse au cerveau, m'appelle pas pour lui faire la réa. Et elle s'éloigna, haute et royale, avec la même démarche chaloupée que la jeune femme qui, 16 ans auparavant, avait apporté le thé glacé dans le bureau de Hugh.
J'ai frappé à la porte. Hugh n'était pas mort, mais il était affalé derrière son gigantesque bureau et il se frottait les tempes tel un homme en proie à une migraine. Son ordinateur portable était ouvert devant lui. « Tu comptes virer quelqu'un ?» j'ai demandé. Il a levé la tête. « Quoi ?»«
George a dit que si tu comptes virer quelqu'un, elle pose un arrêt maladie pour la journée. »
« Je compte virer personne. C'est ridicule. »«
Elle dit que t'as balancé un truc. »«
N'importe quoi. » Il s'interrompit.
« J'ai balancé un coup de pied dans la corbeille à papier quand j'ai vu ces conneries d'anneaux sacrés. »«
Alors parle-moi de ces anneaux sacrés. Ensuite, je balancerai un deuxième coup de pied rituel dans la corbeille à papier et j'irai bosser. »«
J'ai 18 milliards de choses à faire aujourd'hui, y compris apprendre vite fait deux chansons pour la session des Gadawana. »
Un tir au but dans la corbeille à papier, c'est peut-être justement ce qu'il me faut pour me filer la motive pour la journée.
Hugh s'est remis à se masser les tempes. Je me disais que ça risquait d'arriver, je savais qu'il avait un truc en lui, mais j'aurais jamais rien imaginé d'aussi monumental.
Mais tu sais ce qu'on dit, vas-y fort ou vas-y pas, vieux.
J'ai pas la moindre foutue idée de ce que tu racontes.
« Tu vas pas tarder, Jamie. Tu vas pas tarder. »
J'ai posé mes fesses sur le coin de son bureau. Tous les matins, je regarde les nouvelles de 6 heures en faisant mes comptes et en pédalant sur le vélo d'appartement, ok? Surtout parce que la vue de Miss Météo a ses propres bienfaits cardiovasculaires. Et ce matin, je suis tombé sur une pub qui avait rien à voir avec les crèmes miracles anti-rides et les Golden Oldies de la Time Warner. J'y croyais pas. J'y croyais pas, putain. Et en même temps, j'y croyais. Et là, il rigola. Pas du tout du rire, c'est marrant ça, mais du rire, j'y crois pas, putain. Alors, j'ai éteint cette conne de télé et j'ai fait des recherches sur Internet. Je m'apprêtais à contourner son bureau, mais il me retint du geste.
D'abord, il faut que je te demande si t'accepterais d'aller à un rencard avec moi, Jamie. Voir un homme qui, après 2 ou 3 faux départs, a fini par accomplir sa destinée.
« Bien sûr, oui, pourquoi pas. Du moment que c'est pas Justin Bieber en concert. J'ai un peu passé l'âge pour le Bib. »«
Oh, c'est 1000 fois mieux que le Bib. Mate ça. Mais te laisse pas brûler les yeux. »
J'ai contourné le bureau, et pour la 3e fois de ma vie, mon 5e emploi m'est apparu. La première chose qui m'a frappé, c'est le regard d'hypnotiseur de foire. Il tenait ses 2 mains ouvertes à hauteur de son visage, doigts écartés. Un large anneau d'or ornait chacun de ses 2 majeurs. C'était une annonce sur un site internet intitulé « Revival du pasteur C. Danny Jacobs, grande tournée de guérison 2008 ». Revival sous la tente à l'ancienne. 3. 15 juin. Champ de foire de Norris County, à 30 km de Denver Est. Avec l'ex Frère Soul Al Stamper. Les Gospel Robins et Davina Robinson, et l'évangéliste C. Danny Jacobs. Vu à la télévision dans l'heure de Danny Jacobs, le pouvoir de guérison de l'Évangile. Régénérez votre âme par le chant, ravivez votre foi par la guérison. Vibrez à l'histoire des alliances sacrées, telle que seul pasteur Danny sait la raconter. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les paralysés. Fais en sorte que les gens viennent pour que ma maison soit pleine. Luc 14, versets 21 et 23. Soyez les témoins du pouvoir de Dieu de transformer votre vie. Vendredi 13, 19h. Samedi 14, 14h et 19h. Dimanche 15, 14h et 19h. Dieu parle d'une voix douce. 1 Roi 19, 12. Dieu guérit comme la foudre. Matthieu 24, 27. Venez seuls, venez tous, soyez renouvelés. Au bas de l'annonce figurait la photo d'un jeune garçon rejetant ses béquilles sous les yeux d'une assemblée au visage émerveillé de joie. La légende en dessous de la photo disait Robert Rivard, guéri de dystrophie musculaire 30-05-07, St. Louis, Missouri.
J'étais soufflé. Comme j'imagine le serait quelqu'un apercevant dans la rue un vieil ami présumé mort ou incarcéré pour avoir commis un crime. Pourtant, quelque chose en moi
ma part transformée, ma part guérie, n'était pas étonnée. Cette part de moi-même attendait ça depuis toujours. Hugh rit et me dit « Hey mec, on dirait que t'as avalé une couleuvre !» Puis il prononça à voix haute la seule pensée cohérente qui s'était formée dans mon cerveau à ce moment-là. « On dirait que le rêve fait encore des siennes !»«
Oui, j'ai dit. » Puis j'ai montré du doigt la référence à l'Évangile selon Matthieu. « Mais ce verset-là n'a rien à voir avec la guérison. »
Hugh haussa les sourcils.
« Je te savais pas féru d'études bibliques. »
« Il y a beaucoup de choses que tu sais pas, j'ai dit, parce qu'on parle jamais de lui. Mais j'ai connu Charlie Jacobs bien avant tant ça. Il a été pasteur de notre église quand j'étais petit. C'était son premier poste, et j'aurais juré que ça avait été son dernier, jusqu'à aujourd'hui. »
Le sourire de Hugh disparut.
« Tu déconnes ! Quel âge il avait ? 18 ans ?»«
Je dirais dans les 25. Moi j'en avais 6 ou 7. »
Il guérissait déjà les gens à l'époque ?
Pas du tout, sauf mon frère Conrad, cela dit. À l'époque, c'était un méthodiste pur et dur, genre jus de raisin à la place du vin pour la communion, tu vois le truc. Tout le monde l'aimait bien, du moins jusqu'au terrible sermon. Il est parti après avoir perdu sa femme et son fils dans un accident de voiture.
Le rêve était marié ? Il avait un gamin ?
Oui. Hugh a réfléchi. Alors, il a le droit de porter au moins une de ses alliances, à condition que ce soit bien des alliances. Ce dont je doute, regarde ça.
Il remonta jusqu'au bandeau en haut de la page, plaça le curseur sur témoignage de miracle et cliqua. L'écran affichait maintenant une mosaïque de vidéos de YouTube. Il y en avait bien une douzaine.
Hugh, si tu veux aller voir Charlie Jacobs, je serais heureux de suivre. Mais vraiment, j'ai pas le temps de discuter de ça maintenant.
Il m'a dévisagé attentivement. Non, en fait, t'as pas l'air de quelqu'un qui a avalé une couleuvre. T'as plutôt l'air de quelqu'un qui vient d'encaisser un uppercut au foie. Regarde juste cette vidéo et je te laisse partir.
À mi-hauteur de l'écran, il y avait le gamin de l'annonce. Quand Hugh a cliqué dessus, j'ai vu que le clip, qui ne durait pas plus d'une minute, avait déjà recueilli plus de 100 000 vues. Pas encore viral, mais presque.
Quand l'image a commencé à s'animer, une main a brandi un micro marqué KSDK devant le visage de Robert Rivard. Une femme invisible a dit « Décrivez-nous ce qui s'est passé lorsque cette prétendue guérison s'est produite, Bobby. »
« Eh ben, madame, » a dit Bobby, « quand il m'a pris la tête, j'ai senti les alliances sacrées sur les côtés, juste ici. »
Il a indiqué ses tempes. « J'ai entendu un craquement comme une petite branche de bois mort. » J'ai dû m'évanouir pendant 1 ou 2 secondes, et puis cette chaleur est descendue dans mes jambes. Et
le garçon se mit à pleurer.
Et je me suis mis debout, je pouvais marcher. Dieu bénisse le pasteur Danny.
Hugh s'est carré dans son fauteuil. J'ai pas regardé tous les témoignages, mais ceux que j'ai vus se ressemblent tous, plus ou moins. Ça te rappelle quelque chose ?
Peut-être, je dis prudemment. Et toi ?
Nous n'avions jamais discuté de la dette qu'avait Hugh envers le rêve. Une dette assez importante pour que le patron du ranch de Wolfjaw, sur un simple coup de téléphone, engage un ex-héroïnomane tout juste abstinent.
« Pas maintenant. T'as pas le temps. Qu'est-ce que tu fais à l'heure du déjeuner ?»«
Je vais commander une pizza. On a un gars de Longmont après la Minette Country. Le planning dit que c'est un baryton qui met sa voix au service de la chanson populaire. »
Le regard de Hugh est resté vide une seconde. Puis il s'est frappé le front de la paume de la main.
Oh, Seigneur, c'est pas George Damon.
Ouais, c'est ce nom-là.
Ma parole, j'étais sûr que ce crétin était mort.
Ça remonte à longtemps, avant ta naissance. Le premier disque qu'il a fait avec nous, c'était Damon chante Gershwin. Longtemps avant les CD, même si on devait déjà avoir le 8 pistes. Toutes les chansons, et j'exagère pas, toutes ces putains de chansons ressemblaient à Kate Smith interprétant « God Bless America ».
Laisse Smokey se démerder avec lui. Ils se connaissent. Si le mockster foire la prise, tu pourras toujours nous arranger ça au mixage.
T'es sûr ?
Oui.
Si on doit aller ensemble voir ce sacré show de charlatan du révérend, je veux d'abord entendre ce que tu sais de lui.
Probable que ça fait des années qu'on aurait dû avoir cette conversation. J'ai médité là-dessus. Ok, mais si tu veux recevoir, il faut donner. Échange d'informations. Il a entrelacé ses doigts, posé ses mains sur la devanture assez proéminente de sa chemise western et s'est renversé dans son fauteuil. Oh, c'est rien dont j'ai à rougir, si c'est ce que tu penses. C'est juste que c'est complètement incroyable. Je le croirais, lui ai-je dit. Peut-être bien. Avant de filer, dis-moi ce que raconte ce verset de Matthieu et comment tu le connais. Je ne peux pas te le citer mot pour mot après toutes ces années, mais c'est quelque chose du genre « Comme l'éclair illumine le ciel de l'Orient jusqu'au couchant, de même se fera l'avènement de Jésus. » Ça n'a rien à voir avec la guérison, il s'agit de l'Apocalypse. Et je m'en souviens parce que c'était un des préférés du révérend Jacobs. J'ai jeté un coup d'œil à la pendule. La chanteuse country aux longues jambes, Mandy quelque chose, était une lefto chronique. Je l'imaginais déjà en train d'attendre sur les marches du studio 1, sa guitare posée à côté d'elle. Mais il y avait une dernière chose que j'avais besoin de savoir tout de suite. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Je doute que ce soit des alliances. Il s'est pas servi de ses alliances avec toi, si ? Quand il s'est occupé de ton petit problème de drogue. J'ai repensé à la carrosserie auto abandonnée. Non. D'un casque audio. C'était en... quoi, 1992 ? Oui. Mon expérience avec le révérend remonte à 1983. Il a dû moderniser son modus operandi depuis. S'il est revenu aux anneaux, c'est sûrement parce que ça fait plus religieux que les écouteurs. Mais je parie qu'il a progressé dans son travail depuis mon époque, et la tienne. C'est le rêve tout craché, non ? Toujours à essayer de mettre la barre plus haut. Tu l'appelles le rêve ? Il prêchait quand tu l'as rencontré ? Oui et non. C'est compliqué. Vas-y, file. Ta chanteuse doit t'attendre. Peut-être qu'elle sera en mini-jupe. Ça distraira tes pensées du pasteur Danny. Et de fait, sa jupette était vraiment mini et ses jambes décidément spectaculaires. Je les ai à peine remarquées, cependant, et je serais bien incapable de vous citer une seule des chansons qu'elle a chantées ce jour-là, sans consulter le journal de bord. Mon esprit était concentré sur Charles Daniel Jacobs, alias Le Rêve, désormais connu sous le nom de Pasteur Danny. Mokey McDonald a encaissé sans rien dire sa réprimande pour la console allumée. Il a acquiescé, tête baissée, et promis de faire plus attention la prochaine fois. Oui, il ferait attention. Pendant un temps. Puis, d'ici une semaine ou deux, je rentrerai et trouverai encore la console allumée dans le 1, le 2 ou les 2. Je trouve ridicule de mettre des gens en prison parce qu'ils ont fumé de l'herbe, mais il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'en usage quotidien prolongé, c'est la recette idéale pour les PTM, les putains de trous de mémoire. Quand je lui ai appris qu'il allait enregistrer George Damon, le mockster s'est illuminé. « J'ai toujours adoré ce gars-là » s'est-il exclamé. « Tout ce qu'il chante ressemble à « God Bless America » par Kate Smith, je sais. Éclate-toi !» Il y avait une jolie petite aire de pique-nique sous un bosquet d'aulnes derrière la grande maison. Georgia et deux autres filles du bureau s'y étaient installées pour déjeuner. Hugh m'a conduit à une table assez éloignée de la leur et a déballé deux sandwichs et deux canettes de Dr. Pepper de son spacieux sac à main pour homme. J'ai poulet crudité et thon crudité de chez Tubby. Tu choisis. J'ai choisi thon. On a mangé un moment en silence, assis là sous l'ombre portée des hautes montagnes. Puis Hugh a dit « Moi aussi j'ai été guitariste rythmique, tu sais, mais je me débrouillais un tout petit peu mieux que toi. T'es pas le seul. À la fin de ma carrière, je faisais partie d'un groupe du Michigan qui s'appelait les Johnson Cats. Dans les années 70, ces mecs en chemise militaire qui avaient un son comme les Eagles, c'était plutôt début 80 quand on a percé, mais ouais, c'était nous. On a eu 4 titres au top 50, tous extraits de notre premier album. Et tu veux savoir ce qui a d'abord fait que cet album a été remarqué ? Son titre et sa jaquette. Deux idées à moi. Il s'intitulait « Tonton Jack joue tous les gros succès ». Et il y avait vraiment mon oncle Jack Yates sur la jaquette, assis dans son salon, en train de gratter son ukulele. Sur l'album, du gros son et du fuzz à gogo. Pas étonnant qu'il ait raté meilleur album aux Grammys. C'était l'air de Toto,
Putain d'Africa! Quel gros tas de merde!
Il rumina un instant. Bref, j'étais avec les Cats depuis 2 ans, et voilà que notre album cartonne et que je suis dessus. Je joue les 2 premières dates de la tournée et je me fais lâcher.
Pourquoi?
Me disant, histoire de drogue. À l'époque, c'était toujours des histoires de drogue. Mais sa réponse m'a surpris. Je suis devenu sourd. La tournée des Johnson Cats avait commencé à Bloomington, au Circus One, avant de rejoindre le Congress Theatre à Oak Park. Petite salle, concert d'échauffement, avec en première partie des petits guitaristes locaux. Puis, direction Détroit, où les choses sérieuses devaient commencer. 30 villes, où les Johnson Cats assureraient la première partie de Bob Seger et le Silver Bullet Band. Du rock d'arène, du lourd, ce dont on rêve. Le sifflement dans les oreilles de Hugh a commencé à Bloomington. Au début, il avait mis ça sur le compte d'une partie du prix à payer quand on vend son âme au rock'n'roll. Quel musicien qui se respecte n'a pas de temps en temps des crises d'acouphènes? Souvenez-vous, Pete Townsend, Eric Clapton, Neil Young, et puis, à Oak Park, le vertige et la nausée ont frappé. En plein milieu du concert, Hugh était sorti de scène en titubant pour aller dégobiller dans un seau rempli de sable. « Je me souviens encore de l'écriteau accroché au-dessus. Petit feu uniquement », m'a-t-il raconté. Il avait réussi à terminer le concert. Ne lui demandez pas comment, saluer et quitter la scène en titubant. « Qu'est-ce que t'as ?» lui demanda Felix Granby. C'était le chanteur et guitariste solo, ce qui signifiait que pour le gros du public, le public amateur de rock en tout cas, les Johnson Cats, c'était lui. « T'es bourré ?»« Gastro », répondit Hugh. « Ça va déjà mieux. » C'est ce qu'il croyait. Avec les amplis éteints, les acouphènes semblaient effectivement refluer. Mais le lendemain matin, ils étaient de retour et à part ce sifflement infernal, ils n'entendaient plus rien. 2 membres des Johnson Cats pressentirent la catastrophe imminente, Felix Granby et Hugh lui-même. Ils n'étaient qu'à 3 jours du Silver Dome à Pontiac, capacité 90 000 spectateurs. Avec Bob Seger, favori de Détroit, en vedette, le stade serait quasi comble. Les Cats étaient au seuil de la gloire, et dans le rock'n'roll, ce genre de chance se présente rarement 2 fois. Felix Granby fit donc à Hugh ce que Kelly Van Drone des White Lightnings m'avait fait. « Je lui en veux absolument pas », me dit Hugh. « Si nos rôles avaient été inversés, j'aurais sûrement fait la même chose. » Il a engagé un musicien de session de chez L'Amour Studio à Détroit, et c'est ce gars-là qui est monté sur scène avec eux au Dôme ce soir-là. C'était Granby en personne qui avait viré Hugh, pas en disant des mots, mais en les écrivant et en les lui tendant pour qu'il les lise. Il lui avait fait remarquer que si les autres membres des Cats étaient originaires de milieux modestes, Hugh, lui, venait d'une famille friquée. Il pouvait reprendre un vol pour le Colorado en première classe et aller consulter les meilleurs spécialistes. Le dernier mot de Granby, en lettres capitales, disait ceci. « T'inquiète, en -2, tu seras de retour avec nous. » « Tu parles », commenta Hugh, alors qu'on était assis à l'ombre à manger nos sandwichs de chez Tubby. « Tu regrettes encore, hein ?» j'ai demandé. « Non. » Un long silence. « Si. » Il n'était pas rentré dans le Colorado. De toute façon, j'aurais jamais pris l'avion. J'avais idée que ma tête risquait d'exploser en arrivant à 6 000 mètres d'altitude. En plus, c'était pas de rentrer à la maison que j'avais besoin. Tout ce que j'avais envie de faire, c'était me terrer pour lécher mes plaies, qui saignaient encore. Et pour lécher ces plaies, Détroit était un endroit aussi bien qu'un autre. Enfin, c'est l'histoire que je me suis racontée en tout cas. Les symptômes ne s'étaient pas estompés. Vertige, nausée, toute la gamme, de légère à sévère, et toujours ce sifflement infernal, parfois discret, parfois tellement bruyant, qu'il pensait que sa tête allait éclater. Par intervalles, ses symptômes régressaient tous d'un seul coup, telle une marée qui reflue, et alors il dormait pendant 10 ou 12 heures d'affilée. Bien qu'ayant les moyens de s'offrir mieux, il était descendu dans un hôtel pouilleux de Grand Avenue. 2 semaines durant, il repoussa sa visite chez le médecin, terrifié à l'idée qu'on lui apprenne qu'il avait une tumeur maligne et inopérable au cerveau. Quand il se força enfin à pousser la porte d'une petite officine sur Inkster Road, un médecin hindou à qui il n'aurait pas donné plus de 17 ans l'écouta en hochant la tête, l'examina et lui enjoignit d'aller à l'hôpital
subir d'autres examens et se faire administrer des médicaments expérimentaux contre la nausée que lui-même n'était pas autorisé à prescrire. Désolé. Au lieu d'aller à l'hôpital, Hugh se mit à entreprendre, du moins quand le vertige le permettait, de longs et inutiles safaris le long de cette célébrissime artère de Détroit connue sous le nom de Eight Mile Road. Un jour, il était passé devant une vitrine pleine de radios, de guitares, d'électrophones, de lecteurs de cassettes, d'amplis et de téléviseurs. D'après l'enseigne, on était chez Jacobs Electronics, neuf et occasion. Même si aux yeux de Hugh Yates, la majeure partie de ce bazar paraissait archi-usée et rien n'avait l'air neuf. Je ne saurais pas te dire exactement pourquoi je suis entré. Peut-être une insupportable nostalgie pour toutes ces délicieuses friandises acoustiques, ou peut-être de l'autoflagellation. Ou alors, je pensais juste que la boutique serait climatisée. Et comme j'en pouvais plus de la chaleur, tu parles. Je me fourrais le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ou c'est d'écriteaux sur la porte qui m'a attiré. Il disait quoi ? Hugh m'a souri. Vous pouvez faire confiance au rêve. Il était le seul client. Du matériel largement plus exotique que les articles figurant en vitrine étaient entassés sur les étagères. Certains de ces équipements, il connaissait. Compteurs, oscilloscopes, voltmètres, régulateurs de tension, régulateurs d'amplitude, transformateurs, convertisseurs. D'autres ne lui disaient rien. Des câbles électriques ondulaient sur le sol et des fils électriques traînaient partout. Le propriétaire parut dans l'encadrement d'une porte soulignée d'une guirlande de Noël clignotante. Probable qu'une clochette avait tinté quand j'étais entré, mais évidemment je l'avais pas entendu, me précisa Hugh. Mon bon vieux cinquième emploi était vêtu d'un jean délavé et d'une simple chemise blanche boutonnée jusqu'au col. Sa bouche remua en un bonjour et un truc qui aurait pu être « En quoi puis-je vous aider ?» Hugh le salua de la main, secoua la tête et se mit à flâner le long des étagères. Il prit une Stratocaster dont il racla les cordes en se demandant si elle était accordée. Jacobs l'observait avec intérêt, mais sans inquiétude visible, malgré la coupe de rocker de Hugh qui pendouillait maintenant en mèche crade sur ses épaules et ses fringues tout aussi crades. Au bout de 5 minutes environ, juste au moment où Hugh commençait à en avoir assez et se préparait à retourner à l'hôtel pouilleux où il avait élu domicile, le vertige frappa. Il tituba, tenta de se rattraper d'une main et renversa un haut-parleur démonté. Il faillit surmonter son malaise, mais il avait très peu mangé dernièrement, et le monde vira au gris. Avant que sa tête ne heurte le sol poussiéreux de la boutique, le monde avait viré au noir. C'était mon histoire qu'il me racontait là, seul le lieu était différent. Quand il se réveilla, il se trouvait dans le bureau de Jacobs, un linge humide sur le front. Hugh s'excusa, disant qu'il paierait pour tous les dégâts qu'il avait pu occasionner. Jacobs se rejeta en arrière en clignant des yeux de surprise. C'était une réaction que Hugh avait souvent vue au cours des semaines passées. « Excusez-moi si je parle trop fort, dit-il, mais je ne m'entends pas, je suis sourd. » Jacobs farfouilla pour trouver un bloc-notes dans le tiroir de son bureau encombré. J'imaginais parfaitement ce bureau, jonché de morceaux de fils électriques et de piles. Il gribouilla et brandit le bloc. « Récent ? Vous avez vu avec guitare ?»« Récent, » confirma Hugh. « J'ai quelque chose qui s'appelle la maladie de Meinière. Je suis musicien. » Il réfléchit à ça et éclata de rire. Un rire silencieux à ses propres oreilles, même si Jacobs y répondit par un sourire. « J'étais musicien. » Jacobs tourna la page de son carnet, écrivit rapidement et le brandit de nouveau. « Si c'est Meinière, je peux peut-être faire quelque chose pour vous. » Ce qu'il a fait, à l'évidence, ai-je remarqué. L'heure du déjeuner était terminée. Les filles étaient retournées à l'intérieur. J'avais des choses à faire, des tas, mais je n'avais aucune intention de partir avant d'avoir entendu le reste de l'histoire de Hugh. Nous sommes restés longtemps assis dans son bureau. La conversation est lente quand l'un des deux doit écrire ses réparties. Je lui ai demandé comment il pensait pouvoir m'aider. Il a écrit qu'il expérimentait depuis peu la stimulation électrique nerveuse transcutanée, SENT en abrégé. Il m'a dit que l'idée d'utiliser l'électricité pour stimuler des nerfs endommagés remontait à des milliers d'années,
que ça avait été inventé par un vieux Romain. Une porte poussiéreuse s'est ouverte tout au fond de ma mémoire. Oui, un vieux Romain du nom de Scribonius. Il a découvert que si un type souffrait de la jambe et qu'il marchait sur une anguille électrique, la douleur disparaissait parfois. Et son « depuis peu », Hugh, c'était du pipeau, dont rêve tripatouillait déjà avec la SENT bien avant qu'elle ne soit officiellement inventée. Hugh m'a regardé fixement, sourcils levés. « Poursuis-je, lui ai dit. « D'accord, mais on reviendra là-dessus plus tard, ok ?» J'ai fait oui de la tête. « Tu me dis tout, je te dis tout. C'était le marché. Je vais te donner un indice. Dans mon histoire aussi, il y a un épisode d'évanouissement. Bon, je lui ai dit que la maladie de Meynière était un mystère. Les médecins ignorent si c'est nerveux, si c'est un virus entraînant une sécrétion chronique de liquide dans l'oreille moyenne, si c'est une atteinte bactérienne ou un truc génétique. Jacobs a écrit « Toutes les maladies sont électriques par nature ». Je lui ai dit que c'était cinglé. Il s'est contenté de sourire. Il a tourné une autre page de son bloc et il a écrit un peu plus longuement. Puis il me l'a passé. Je ne pourrais pas te le répéter mot pour mot. Ça fait un bail. Mais j'oublierai jamais la première phrase. L'électricité est la base de toute vie. Ça encore, c'était du Jacobs tout craché. La citation valait mieux qu'une empreinte digitale. Le reste disait à peu près ceci. Prenez votre cœur, par exemple. Il est alimenté en microvolts. Ce courant est fourni par le potassium, un électrolyte. Votre corps convertit le potassium en ions, des particules chargées électriquement, et les utilise pour réguler non seulement votre cœur, mais aussi votre cerveau et tout le reste. Il avait écrit ces trois derniers mots en capitale. Il les a entourés. Quand je lui ai rendu son carnet, il a dessiné quelque chose dessus, très vite. Puis il a désigné mes yeux, mes oreilles, mon torse, mon ventre et mes jambes. Puis il m'a montré son dessin. C'était un éclair. Évidemment, un éclair. Abrège, Hugh. Bref. Hugh lui a dit qu'il avait besoin de réfléchir. Ce qu'il n'a pas dit, mais qu'il pensait certainement, c'était qu'il ne connaissait Jacobs ni d'Ève ni d'Adam. Ce type pouvait être un de ces oiseaux déboussolés qui battent le pavé de toutes les grandes villes. Jacobs a écrit qu'il comprenait l'hésitation de Hugh et n'en était pas exempt lui-même. « Je prends des risques en vous faisant cette proposition. Après tout, je ne vous connais pas plus que vous ne me connaissez. »« Est-ce que c'est dangereux ?» lui demanda Hugh d'une voix qui commençait déjà à perdre son intonation et ses inflexions, une voix de robot. Le rêve haussa les épaules et écrivit. « Je ne vous le cache pas, il y a des risques à appliquer de l'électricité directement dans les oreilles. » Mais c'est du courant basse tension, ok? Le pire effet indésirable qui pourrait vous arriver, selon moi, serait de vous pisser dessus. C'est complètement dingue, lui avait répondu Hugh. On est cinglé rien que d'en discuter. Le rêve avait de nouveau haussé les épaules, mais il n'avait rien écrit de plus. S'était contenté de regarder Hugh. Hugh, assis dans le bureau, la main refermée sur le linge encore humide mais maintenant tiède, considérait sérieusement la proposition de Jacobs. Et une grande partie de son cerveau trouvait cette sérieuse considération parfaitement normale, même compte tenu du caractère récent de leur rencontre. Il était musicien, il était devenu sourd, et le groupe dont il avait été l'un des fondateurs l'avait lâché, un groupe maintenant au seuil d'un succès national. D'autres musiciens, et au moins un compositeur célèbre, Beethoven, avaient été frappés de surdité. Mais dans le cas de Hugh, la perte de Louis n'était pas la seule plaie qui l'accablait. Il y avait aussi les vertiges. Les tremblements, les pertes de vision passagères. Il y avait les nausées, les vomissements, la diarrhée, les palpitations cardiaques. Pire que tout, il y avait les acouphènes quasi constants. Hugh avait toujours cru que surdité signifiait silence. Or, ce n'était pas vrai, du moins pas dans son cas. Hugh Yates avait une alarme anti-effraction braillant sans cesse au milieu de la tête. Et il y avait encore un autre facteur. Une vérité sur laquelle il avait jusque-là fermé les yeux, quoique la surprenant par intermittence, comme du coin de l'œil. S'il était resté à Détroit, c'est qu'il rassemblait son courage. Il y avait de nombreux monts de piété dans 8 Mile Road, et tous vendaient des calibres. Ce que proposait ce type, était-il pire qu'un canon de vieux 38 fourré entre les dents et pointé vers le palais? De sa voix trop forte de robot, Hugh avait déclaré «
Et merde, faites-le !»
Hugh me raconta la suite tout en contemplant les montagnes, sa main droite caressant son oreille droite tandis qu'il parlait. Je ne crois pas qu'il était conscient de son geste. Il a mis un écriteau fermé sur sa vitrine. Il a fermé la porte à clé et baissé les stores. Puis il m'a fait asseoir sur une chaise en formica près de la caisse et il a posé une boîte en métal de la taille d'un petit coffre-fort sur le comptoir. À l'intérieur, il y avait deux anneaux en métal entourés de ce qui ressemblait à du fil d'or. Il faisait à peu près la taille des grosses boucles d'oreilles que porte Georgia quand elle veut faire style. Tu vois lesquelles ?
Oui, bien sûr.
Chacun avait une base en caoutchouc d'où sortait un fil. Les fils se rejoignaient dans un boîtier de contrôle, pas plus gros qu'un carillon de porte. Il a ouvert le capot du boîtier et m'a montré ce qui ressemblait à une pile 3A. Ça m'a rassuré. Ça peut pas faire bien mal, j'ai pensé. Mais je me suis senti un peu patraque quand je l'ai vu enfiler des gants de caoutchouc. Tu sais, de ces gants de ménage que mettent les femmes pour faire la vaisselle et saisir les anneaux avec des pinces. Je crois que les piles 3A de Charlie sont différentes de celles qu'on trouve dans le commerce, ai-je observé. Bien plus puissante. Il t'a jamais parlé de l'électricité secrète ?
Oh si, des tas de fois. C'était son dada.
Mais ça, c'était plus tard. Et ça m'a toujours dépassé. Lui aussi d'ailleurs, je crois bien. Il avait ce regard. Perplexe, j'ai dit. Perplexe, inquiet et excité, tout ça à la fois.
Ouais, c'est ça.
Il a appliqué les anneaux contre mes oreilles en se servant des pinces, tu vois. Et il m'a demandé de presser le bouton sur le boîtier de contrôle, puisqu'il avait les mains occupées. J'ai failli ne pas le faire, mais j'ai eu une vision de tous ces revolvers dans les vitrines des Mont-de-Piété, et je l'ai fait. Puis, trou noir. Je ne l'ai pas dit en forme de question parce que j'en étais sûr, mais Hugh m'a étonné. J'ai eu des trous noirs, c'est vrai, et ce que j'appelle des prismatiques, mais ça, c'est arrivé plus tard. Sur le moment, il y a juste eu un fort craquement au milieu de ma tête. Mes jambes se sont détendues et mes mains se sont levées comme celles d'un écolier qui veut à tout prix signaler à la maîtresse qu'il a la réponse. Ça, ça me rappelait des souvenirs. Et puis, il y avait ce goût dans ma bouche, comme si j'avais sucé des pièces de monnaie. J'ai demandé à Jacob si je pouvais avoir un verre d'eau et je me suis entendu poser la question. Alors j'ai éclaté en sanglots. J'ai pleuré pendant un bon moment. Il m'a tenu contre lui. Enfin, Hugh se détourna du spectacle des montagnes et me regarda. Après ça, j'aurais fait n'importe quoi pour lui, Jamie. N'importe quoi. Je connais ça. Quand je me suis ressaisi, il m'a ramené dans la boutique et m'a mis un casque audio COS sur les oreilles. Il l'a branché sur une station FM et il baissait progressivement le volume en me demandant si j'entendais le son. Il est allé jusqu'à zéro et j'aurais presque pu jurer que je l'entendais encore. Il m'a pas seulement rendu Louis, Jamie. Il me l'a rendu plus aiguisé que je l'avais à 14 ans, quand j'ai commencé à jouer avec mon premier groupe. Hugh a demandé à Jacobs comment il pouvait le payer. Le rêve, rien qu'un type négligé à l'époque, qui avait besoin d'aller chez le coiffeur et de prendre un bain, a réfléchi à la question. Il s'est enfin décidé. Je vais vous dire. Ça marche pas très fort le commerce ici, et certains des individus qui poussent la porte ne sont pas très bien finis. Je vais déménager tout ce matos dans un hangar de stockage de la banlieue nord pendant que je réfléchis à quoi faire ensuite. Vous pourriez m'aider.
Je peux faire mieux que ça, avait dit Hugh,
savourant toujours le son de sa propre voix. Je vais louer moi-même l'espace de stockage et engager une équipe de déménageurs pour s'occuper de tout. On dirait pas comme ça, mais j'ai les moyens, je vous assure. Jacobs parut horrifié à cette idée. Certainement pas. Les articles que je vends sont du bric-à-brac pour la plupart, mais j'ai de l'équipement de valeur à l'arrière, dans mon labo, et fragile aussi. Votre aide me suffira amplement comme paiement. Mais d'abord, vous avez besoin de vous reposer un peu, et de manger. Remplumez-vous. Vous venez de traverser une période difficile. Cela vous dirait-il de devenir mon assistant, monsieur Yates ?
« Si c'est ce que vous voulez, monsieur Jacobs, » avait consenti Hugh.
« Je n'arrive toujours pas à croire que vous parlez et que je vous entends. » « D'ici une semaine, ça vous paraîtra couler de source, » observa Jacobs avec dédain. « C'est comme ça avec les miracles. Inutile de s'en formaliser, c'est la bonne vieille nature humaine. Mais puisque nous venons de vivre un miracle, dans ce coin perdu de la ville de l'automobile,
je ne puis continuer à vous laisser m'appeler Monsieur Jacobs. Permettez-moi dorénavant d'être le rêve pour vous. »
« Rêve comme révérend ?»«
Exactement, » approuva-t-il en souriant. « Révérend Charles D. Jacobs, actuellement premier prélat de la première église de l'électricité. Et je promets de ne pas vous surcharger de travail. Rien ne presse, nous avons tout notre temps. »
« Tu m'étonnes, » ai-je commenté.
« Qu'est-ce que tu veux dire par là ?»«
Il n'a pas voulu que tu lui loues une équipe de déménageurs et il n'a pas voulu de ton argent. Ce qu'il voulait, c'était ton temps. » Je pense qu'il t'observait, il guettait les effets secondaires. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ?
À l'époque, rien. J'étais sur un petit nuage. Si le rêve m'avait demandé de dévaliser la première banque de Détroit, peut-être bien que je l'aurais fait. Mais en y repensant, je crois que tu as peut-être raison. Question travail, après tout, il n'y avait pas grand-chose à faire parce qu'il n'avait presque rien à vendre en vérité. Il en avait un peu plus dans son labo, mais avec un camion de location assez grand, on aurait pu déménager tout ce Bataclan en 2 jours. Mais il a fait durer le plaisir toute une semaine.
Hugh réfléchit. Ouais, c'est vrai. Il m'observait.
Il t'étudiait. Il guettait les effets secondaires consécutifs au traitement. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Il fallait que je sois au studio dans 15 minutes et j'allais être en retard si je m'attardais plus longtemps.
Accompagne-moi jusqu'au studio 1. Tu me raconteras en chemin.
Pendant qu'on marchait, Hugh m'a parlé des trous noirs qui avaient suivi son traitement à l'électricité. Ils avaient été brefs mais fréquents au cours des 2 premiers jours et sans véritable sensation de perte de connaissance. Hugh se retrouvait simplement dans un endroit différent et découvrait que 5 minutes s'étaient écoulées, ou 10. Ça lui était arrivé 2 fois pendant qu'il embarquait avec Jacobs l'équipement et le bric-à-brac d'occasion dans un vieux fourgon de plombier que Jacobs avait emprunté à Dieu sait qui, peut-être un autre de ces miraculés à l'électricité. Mais si c'était le cas, Hugh n'en sut jamais rien, car le rêve restait obstinément muet sur ce sujet. Je lui ai demandé de me dire ce qui m'arrivait pendant ces moments d'absence, et il a dit rien, qu'on continuait juste à trimballer les trucs en bavardant comme si de rien n'était.
Tu l'as cru ?
Sur le moment, oui. Maintenant, je ne sais pas.
Un soir, me raconta Hugh, ça devait être 5 ou 6 jours après le traitement, il était en train de lire un livre, assis sur une chaise dans sa chambre d'hôtel pouilleuse, quand soudain il s'était retrouvé debout dans le coin, face au mur.
« Est-ce que tu parlais tout seul ?» je lui ai demandé, pensant « Il s'est passé quelque chose, quelque chose, quelque chose, quelque chose. »«
Non, » m'a-t-il dit, « mais…
mais quoi ?»
Il secoua la tête à ce souvenir. « J'avais enlevé mon pantalon et remis mes tennis, et j'étais planté là, en caleçon et en Reebok. »
« Dingo, non ?»«
Muy loco, » j'ai dit.
« Et elles ont duré combien de temps, tes mini-absences ?»«
La 2e semaine, j'ai dû en avoir 2 ou 3.
Et la 3e, plus aucune.
Mais il y a autre chose qui a persisté. Ce truc avec mes yeux.
C'est
fait. C'est prismatique.
Je ne sais pas comment les appeler autrement. Ça a dû m'arriver 10 fois au cours des 5 années suivantes. Et plus rien depuis. »
Nous étions devant le studio. Moki nous attendait, sa casquette publicitaire Bronco, mise à l'envers, le faisait ressembler au plus vieux skateboarder du monde.
« Le groupe est arrivé, il répète !» Il baissa le ton. « Putain, les mecs, ils sont vraiment horribles !»«
Dis-leur qu'on aura du retard, je lui ai dit. On leur ajoutera du temps au mixage pour compenser. »
Le regard de Moki passa de Hugh à moi, puis revint sur Hugh, captant la température émotionnelle.
« Hey, personne va se faire virer, hein ?»«
Non, sauf si tu laisses encore la console allumée, » a dit Hugh. « Maintenant, rentre et laisse les adultes discuter. »
Moki nous a adressé un salut militaire et il est rentré.
Hugh s'est retourné vers moi. Les prismatiques étaient vachement plus étranges que les trous noirs. Je ne sais pas vraiment comment les décrire. Comme disait l'autre, fallait être là.
« Essaye !»
Je savais toujours quand ça allait arriver.
Je vaquais à mes occupations, tu vois, la routine, quand tout d'un coup, ma vision commençait à s'affûter.
Comme ton ouïe après le traitement ?
Il a fait non de la tête.
Non, l'ouïe, c'était réel. J'entends toujours beaucoup mieux depuis le traitement du rêve. Et je sais qu'un audiogramme pourrait le prouver, mais je n'ai jamais pris la peine d'en faire un.
Non, le truc de la vision, c'était comme, tu sais,
Les épileptiques qui peuvent prédire qu'une crise se prépare au fourmillement dans leurs poignets ou à une odeur fantôme. Des signes précurseurs, c'est ça. Cette sensation que ma vision s'affûtait était un signe précurseur. Ce qui se produisait après, c'était les couleurs. Les couleurs. Le monde se remplissait de rouge, de bleu, de vert, sur le pourtour des choses. Les couleurs apparaissaient et disparaissaient. C'était comme regarder à travers un prisme, mais un prisme qui aurait magnifié les objets en même temps qu'il les décomposait. Il se tapota le front. Un petit geste de frustration. Je pourrais pas être plus précis, et pendant les 30 à 40 secondes que ça durait, c'était comme si je pouvais presque regarder à travers le monde, et qu'il y avait un autre monde juste derrière, un monde plus réel. Il me considéra gravement. C'était ça, les prismatiques. J'en avais jamais parlé à personne avant aujourd'hui. Ça me foutait une frousse de tous les diables. T'en as jamais parlé au rêve ? Je l'aurais fait, mais il était déjà parti la première fois que ça m'est arrivé. Pas de grand au revoir, juste un mot me disant qu'il avait une opportunité professionnelle à Joplin. C'était environ 6 mois après ma guérison miraculeuse et j'étais déjà rentré ici à Netherland. Les prismatiques, c'était beau, d'une façon qu'il m'est impossible de décrire. Mais j'espère que ça ne reviendra jamais. Parce que si cet autre monde existe vraiment, je ne tiens pas à le voir. Et s'il n'existe que dans mon esprit, je préfère qu'il y reste. Moki ressortit. Ils sont chauds, Jamie. Je les mets en boîte si tu veux. Y a pas moyen que je foire sur ce coup-là parce qu'à côté de ces mecs, les Dead Milkmen sonnent comme les Beatles. C'était peut-être vrai, mais ils avaient payé cash pour leur session. Non, j'arrive. Dis-leur encore 2 minutes. Il disparut. Voilà, dit Hugh. T'as eu la mienne, mais j'ai pas encore eu la tienne, et je la veux toujours. J'ai 1 heure de libre vers 9 heures ce soir. Je viendrai à la grande maison et je te raconterai. Ça prendra pas longtemps. Mon histoire est pour l'essentiel la même que la tienne. Traitement, guérison, effets secondaires qui sont allés en s'atténuant avant de disparaître complètement. Pas tout à fait vrai, mais j'avais une session à enregistrer. Pas de prismatique ? Non, non, des trucs différents. Le syndrome de la tourette sans les jurons, pour commencer. J'avais décidé de garder pour moi les rêves avec les membres de ma famille défunts, du moins pour le moment. Peut-être était-ce mes aperçus à moi de l'autre monde de Hugh. On devrait aller le voir. Hugh m'a agrippé le bras, on devrait vraiment y aller. Je crois que t'as raison. Mais pas de grandes retrouvailles autour d'un dîner, ok ? J'ai même pas envie de lui parler, je veux juste l'observer. Ça me va, j'ai dit, et j'ai regardé sa main. Lâche-moi maintenant avant de me faire un bleu. Faut que j'aille mettre de la musique en boîte. Il m'a lâché. Je suis rentré dans le studio au son d'un groupe de punk local, massacrant des trucs estampillés cuir et épingles à nourrice que les Ramones jouaient largement mieux dans les années 70. Quand j'ai regardé par-dessus mon épaule, Hugh était toujours là, plongé dans la contemplation des montagnes. Le monde derrière le monde, j'ai pensé. Puis je me suis enlevé ça de la tête, du moins j'ai essayé, et je suis allé bosser. J'ai tenu encore 1 an avant de craquer, de m'acheter un ordinateur portable, mais on avait toute la puissance informatique qu'on voulait dans les studios 1 et 2. En 2008, on enregistrait quasiment tout avec des programmes Mac, et ce jour-là, vers 17h, pendant ma pause, j'ai tapé « C. Danny Jacobs » dans Google et récolté des milliers de résultats. Apparemment, j'étais passé à côté de pas mal de choses depuis que C. Danny était apparu sur la scène nationale 10 ans auparavant, mais je ne me suis pas jeté la pierre. J'étais pas tellement fanat de télé. Mon intérêt pour la culture populaire tournait essentiellement autour de la musique, et mes jours de pratiquant fidèle étaient depuis longtemps révolus. Pas étonnant que je sois passé à côté du prédicateur, que son entrée dans Wikipédia qualifiait de Oral Roberts du 21e siècle. Il n'avait pas de méga-église, mais son programme télévisé hebdomadaire, Le pouvoir de guérison de l'Évangile, était diffusé d'un bout à l'autre du continent, sur des chaînes câblées dont les prix d'abonnement étaient modérés, mais dont les retours sous forme d'offrandes d'amour étaient vraisemblablement élevés. Des spectacles étaient enregistrés lors de ces revivals sous la tente à l'ancienne, avec lesquels il sillonnait pratiquement tout le pays, en évitant la côte est où les gens ont la réputation d'être un peu moins crédules. Sur les photos prises au fil des ans, je voyais Jacobs grisonner et vieillir, mais jamais l'éclat de ses yeux ne changeait.
fanatique et quelque part blessé.
Environ une semaine avant notre départ avec Hugh pour aller voir Jacobs dans son environnement naturel, j'ai appelé Georgia Donlin pour lui demander le numéro de téléphone de sa fille, Brianna, celle qui étudiait l'informatique à l'Université du Colorado. La conversation que nous avons eue, Brie et moi, fut extrêmement intéressante.